VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Mali, la population toujours confrontée à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale. Retourne aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle où le chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta affronte en position de force Soumaila Cissé, le chef de file de l'opposition qui n'a pas réussi à obtenir le soutien unanime des autres aspirants à la présidence. Les candidats arrivés aux troisième et quatrième places, à savoir Alou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, qui totalisent à eux deux 15% des voix, ont refusé de donner des consignes de vote. Mais Soumaïla Cissé n'en reste pas moins optimiste. Mali toujours, un rapport de l'ONU indique que les forces de sécurité ont tué des civils, des dizaines de personnes exécutées sommairement lors des opérations contre des islamistes présumés. Plus de détails avec Morgane Guiriet.
Dans un rapport envoyé au Conseil de sécurité, des experts onusiens dénoncent une répétition inquiétante de violations des droits de l'homme par les forces de sécurité maliennes. Le document cite 3 attaques sur des civils, dont une qui a fait 12 morts en mai dernier dans un marché aux bovins à Boulkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso. Bamako avait parlé d'une œuvre de terroriste avant de se rétracter suite au tollé provoqué par des proches des victimes. Le rapport précise qu'à la fin avril, la MINUSMA a mené des enquêtes sur des accusations portant sur 44 exécutions sommaires et 3 disparitions forcées. Il y a eu aussi la découverte récente de 3 charniers près de Mopti où ont été trouvés les corps de 25 civils arrêtés à leur domicile. Le gouvernement a lancé des enquêtes. Le ministre de la Défense avait même reconnu l'implication de l'armée, mais aucune mesure n'a été prise contre les soldats impliqués.
En Afrique de l'Ouest toujours, au Nigeria, au moins 17 soldats ont été tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram. Cette troisième incursion du groupe djihadiste en un mois a visé une base militaire dans le nord-est du pays, Irénée Ormanoumbo.
Des combattants lourdement armés sont arrivés mercredi soir à bord de camions dans le village de Garunda dans l'état du Borno. Ils ont pillé la base militaire. Des troupes ont été attaquées par des terroristes de Boko Haram avec un bilan de 17 soldats tués selon un officier nigérian qui a requis l'anonymat. Il indique également que les djihadistes ont emporté des armes et des véhicules. Cette base militaire venait d'être installée pour les soldats du camp de Djili qui avaient fui l'assaut donné mi-juillet par les combattants fidèles à Barnaoui, leader d'une faction djihadiste dissidente. Boko Haram a mené 2 attaques contre des bases militaires à moins d'un mois dans la région. Le groupe représente encore une menace malgré les affirmations répétées du gouvernement qui prétend maîtriser la situation.
En République démocratique du Congo, la nouvelle épidémie d'Ebola, la 10e enregistrée dans le pays, a déjà fait 10 morts confirmées dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, selon un nouveau bilan publié ce vendredi par le ministère congolais de la Santé. Les autorités sanitaires procèdent à des vérifications sur les causes du décès de 27 autres personnes pour déterminer si elles aussi ont été atteintes par le virus Ebola. 54 autres cas suspects font l'objet d'une enquête sanitaire. L'épidémie a été déclarée le 1er août dans les environs de la ville de Beni et elle affecte une zone de haute insécurité due à la présence de nombreux groupes armés étrangers et locaux dans la région. Une vaccination ciblée a débuté mercredi dans la zone touchée et les résidents de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, sont sensibilisés aux méthodes de prévention anti-Ebola. Des agents des services d'hygiène ont également commencé à être déployés aux différents points d'entrée de cette métropole d'un million d'habitants. RDC toujours, les catholiques congolais à l'origine de 3 marches anti-pouvoir en début d'année reportent la grande mobilisation prévue contre le président Joseph Kabila de dimanche à mardi prochain. Ils saluent la bonne foi du chef de l'État congolais qui s'est choisi un dauphin pour la présidentielle du 23 décembre 2018 en conformité à la Constitution qui interdit un troisième mandat présidentiel. Jonas Tchambela, membre du comité laïque de coordination à Kinshasa, exhorte le gouvernement à en faire davantage.
En signe de bonne foi, le comité laïque de coordination, qui défend les intérêts de la population congolaise, accepte aussi de donner un signal fort et provisoirement, temporairement, de sursoir son programme d'action du 12 13-14 août pour faire preuve de bonne foi et encourager davantage le chef de l'État et la CENI de prendre des dispositions utiles et nécessaires et urgentes pour garantir au peuple congolais le droit des élections libres, inclusives et transparentes. Notre combat en ce moment précis va prendre la direction de la crédibilisation du processus électoral qui doit devenir un processus inclusif, apaisé, dont les résultats seront acceptés par toutes les parties prenantes.
Jonas Tshombela, membre du comité laïque de coordination à Kinshasa en RDC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En RCA, l'assassinat de 3 journalistes russes continue de susciter des interrogations. Au-delà de ce fait divers, c'est la présence russe même dans le pays qui suscite des interrogations. En effet, des militaires russes assurent la protection du président centrafricain Faustin Archange Touadéra et une société de sécurité russe opère également en Centrafrique, y compris dans les territoires tenus par les groupes rebelles. Pour un éclairage, Nicolas Pino a joint Mikhaïl Lebedev, ancien diplomate russe et rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris.
On commence à reparler de la présence russe en Afrique, mais il faut quand même relativiser. Juste un élément, quelques chiffres, le commerce entre la Chine et l'Afrique en 2017, c'est 170 milliards de dollars. Le commerce entre la Russie et l'Afrique, c'était en 2017, 13,8 milliards de dollars, dont 3,5 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Bref, c'est 10 fois moins que le commerce entre la Chine et l'Afrique. Il y a quelques points d'ancrage de la Russie en Afrique, le Maghreb et l'Égypte, aussi l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, mais la Russie développe aussi des rapports avec d'autres États d'Afrique centrale et un peu dans l'Afrique de l'Ouest.
Quel intérêt pour Moscou de renforcer ses liens avec le gouvernement centrafricain ?
Ce n'est pas un secret, la République centrafricaine n'est pas un État très riche, mais côté enjeu économique, l'or et les diamants, ce n'est pas un enjeu crucial. La Centrafrique, c'est aussi le pétrole, et il y a des réserves de pétrole assez importantes dans le nord du pays, à la frontière avec le Tchad. Pour le pétrole, le problème, c'est l'enclavement. Si on commence à exploiter le pétrole d'une manière importante, il faudra désenclaver et construire des oléoducs. Enfin, c'est l'uranium, le fameux gisement de Bakouma qui a été découvert par les experts français après la guerre. Tout le saga d'Arriva, mais la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec le gisement de Bakouma? Est-ce que les Russes cherchent à se positionner d'un côté stratégiquement et aussi de se positionner par rapport à l'exploitation des richesses naturelles de la République centrafricaine.
Mikhaïl Lebedev, rédacteur en chef d'Afrique Défense à Paris en France. Réchauffement entre Paris et Kigali, la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo a estimé dans un entretien avec l'AFP avoir observé beaucoup de bonne volonté en France dans les rapports avec le Rwanda depuis l'arrivée au pouvoir à Paris en 2017 du président Emmanuel Macron. Les relations entre Paris et Kigali sont particulièrement tendues depuis près d'un quart de siècle en raison des accusations rwandaises sur le rôle joué par la France dans le génocide de 1994 au Rwanda, massacre qui a fait quelque 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Louise Mushikiwabo est soutenue par la France pour devenir la prochaine secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Un poste dont le prochain titulaire sera désigné au sommet de la francophonie les 11 et 12 octobre en Arménie. Au Zimbabwe, Tendai Biti, le haut responsable de l'opposition zimbabwéenne, accusé notamment de proclamation illégale de résultats électoraux et violences sur la voie publique, comparé à nouveau devant les juges à Harare ce vendredi. Date butoir pour que son parti, le MDC, dépose un recours contre les résultats de la présidentielle du 30 juillet, remportée par le chef de l'État sortant, Emmerson Mnangagwa. Les avocats de Tendai Biti, qui avaient fui jeudi en Zambie en quête d'asile politique avant d'être remis aux autorités zimbabwéennes, demandent au parquet la abandon des poursuites contre leurs clients. Le MDC, Mouvement pour le changement démocratique, semble attendre le dernier moment pour déposer un recours contre les résultats de la présidentielle. Une fois saisie, la Cour constitutionnelle aura 14 jours pour trancher. En l'absence de recours, Emmerson Mnangagwa, membre de la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, pourrait être investi dimanche après avoir battu son principal rival aux élections, leader du MDC Nelson Chamisa, avec 50,8% des suffrages. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Restez à l'écoute de VOA Afrique.